moi je suis en train de au Kasai oriental. Je refuse totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de l'imprécisant, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de suivre Radio Capi, la fréquence de la paix, et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Plusieurs modifications ont été apportées à la loi électorale adoptée le week-end dernier à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le législateur a introduit, entre autres innovations, la détention obligatoire d'un diplôme supérieur et universitaire pour les candidats ou d'une expérience professionnelle, l'augmentation des frais de dépôt des candidatures ainsi que la participation des Congolais de l'étranger aux différentes échéances. Quel regard portez-vous sur ces trois innovations? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081-893-15. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Nous avons Paul Badianyam à la technique, Faisa Julie Bongonda et Thierry Lamegi sont à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Longuembo sous la supervision d'Eléonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-893-15. Ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne un auditeur qui nous a rejoint, le premier qui va ouvrir les débats du jour. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour à tous les amis avec lesquels nous allons nous échanger.
Voilà, Franck, vous avez suivi le sommaire de cette émission. La thématique tourne autour des trois innovations apportées dans cette loi électorale, à savoir la détention obligatoire d'un diplôme supérieur universitaire pour les candidats ou d'une expérience professionnelle, l'augmentation des frais de dépôt des candidatures ainsi que la participation des Congolais de l'étranger aux différentes échéances. Quel regard portez-vous sur ces innovations?
Merci beaucoup pour la parole. Je suis d'abord de cœur avec tous les compatriotes qui viennent de perdre leur vie autour de ces événements malheureux que nous avons connus le 19, le 20 et le 21. C'est ça qu'on délève à leur famille, à tous ceux qui leur sont proches et aussi paix à leurs âmes. Si l'article 8 de cette loi dans sa teneur telle que conçue devait être maintenu, c'était prévisible et malheureusement que cela pouvait nous entraîner à des situations que nous venons de connaître, car au lieu de la cohésion nationale, on s'est retrouvé dans des situations assez conflictuelles, et c'est vraiment regrettable. S'il y a des ouvertures, c'est peut-être le droit de vote des Congolais vivant en dehors du pays, ceux de la diaspora, ceux qui, le droit qu'on vient de leur accorder de participer au vote. C'est bien qu'on ait aussi pensé à eux, mais je crois qu'il y a encore faut-il que toutes les dispositions administratives, diplomatiques, techniques et pratiques puissent être mises en place, car le simple fait d'avoir un article leur accordant ce droit ne signifie pas ipso facto que cela est déjà effectif. Exiger un minimum des études supérieures et universitaires est certes bien, mais placer cette barre au cycle de licence me semble un peu exagéré. Et à cela, on ajoutait l'expérience de 5 ans. Si nous devons être sérieux avec cette loi, donc beaucoup de députés qui sont actuellement au Parlement ne seront plus que représentés en 2016, car ceux qui n'ont pas de titre de licence se savent déjà exclus ou se savent déjà éliminés ou comment. Et il faut aussi dire que chaque loi a ses raisons d'être. Une première chose, c'est par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo, nous avons besoin d'avoir une loi électorale adaptée aux réalités de notre pays. Une deuxième, c'est d'avoir des acteurs politiques capables de se soumettre par rapport à toutes ces lois qu'on vote et qu'on peut promulguer. Une troisième, c'est d'avoir une commission électorale aussi vraiment indépendante qui pourrait garantir la transparence et la crédibilité de cette
quatrième, d'avoir
des hommes politiques qui sont vraiment, qui ont aussi cette volonté d'appliquer tous ces critères que je viens de numérer.
Okay. Alors, vous avez parlé de... Vous avez
de me poser la question si nous les avons.
Oui, alors, vous avez parlé des droits de vote des Congolais vivant à l'étranger. Vous avez salué, en tout cas, cette initiative. C'est bien pour vous. Encore faut-il qu'on ait aussi des dispositions diplomatiques, administratives et pratiques déjà pour permettre à ce que cette disposition soit vraiment d'application. Vous avez parlé de minimum qu'on doit avoir pour les études supérieures et vous regrettez le fait qu'on ait placé cela au niveau de licence. Alors pour la troisième innovation en ce qui concerne la majoration des prêts de dépôt des candidatures, quel est votre point de vue?
Oui, mais monsieur le journaliste, même là aussi, je crois que nous devons être sincères envers nous-mêmes. C'est notre pays. Quand il s'agit de débats citoyens que vous organisez pour lesquels on doit vraiment vous reconnaître les gré, c'est pas parfois, on ne doit pas faire de loi taillée sur mesure. Donc, on ne doit pas mettre des histoires sachant déjà que telle couche de la population ne saurait pas débourser cette somme. Donc, c'est comme si on a déjà l'intention d'éliminer certains Congolais. Parce que,
oui, Franck, il est très bien dit.
Mais il faut aussi tenir compte de la bourse d'un Congolais qui n'a pas beaucoup de moyens pour se présenter à ces échanges, mais qui a des compétences. Moi, je crois que si nous devons tabler sur le fait d'avoir des compétences capables de donner à un citoyen le mandat d'aller au Parlement et des moyens financiers dont il doit disposer avant de se porter candidat quelque part. Est-ce qu'il n'y a que l'argent qui devrait faire qu'elle puisse être en mesure de se porter candidat, ou on doit aussi d'abord voir les critères objectifs qui feraient que les citoyens puissent porter leur choix sur elle? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi essayer un peu de voir encore de manière la plus proche la teneur de cette loi qui est déjà en discussion, qui sera d'ici là promulguée au niveau de la présidence.
Voilà, mais Franck, il faut noter que dans l'exposé des motifs de cette loi, il est bien dit que la majoration des frais de dépôt des candidatures intervient pour lutter contre la multiplicité des candidatures fantaisistes. Nous l'avons assisté en 2011 et également en 2016.
Je crois, monsieur le journaliste, nous connaissons un peu comment ça se fait chez nous. Je crois que vous êtes mieux placé que moi parce que vous êtes sur place là. Donc, pensez qu'il y aura de l'argent qu'on donnerait à certains candidats pour se porter candidat quelque part, mais lesquels peut-être n'auraient pas de mérite pour aller au Parlement. Donc, on veut avoir des députés qui ne savent pas bien argumenter pour le bien du peuple, mais lesquels argumenteraient seulement pour le bien des états-majors politiques. Voilà. Pas d'un état-major politique, mais des états-majors politiques. Non. Alors, moi, à ce niveau-là, je dois déjà dire que nous avons seulement besoin d'avoir des compétences requises, des candidats capables de défendre les intérêts des citoyens pour lesquels ils doivent aller au Parlement, ou bien un candidat qui a seulement ses moyens financiers, lesquels pourraient se présenter à ces échéances, mais qui ne seraient pas à mesure d'intervenir même une seule fois pour le bien des Congolais. C'est à ce niveau-là que nous devons être sincères et francs pour le débat social aujourd'hui.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir participé à ces débats citoyens. Vous êtes à Vienne, en Autriche, et nous retenons que pour les trois innovations, pour les premiers notamment, vous saluez le fait que cette loi puisse introduire le droit de vote des Congolais vivant à l'extérieur du pays, mais encore faut-il qu'on puisse penser aux dispositions diplomatiques, administratives et pratiques. Mais quant à ce qui concerne les études, vous supposez qu'on puisse, disons, tenir compte quand même des critères objectifs, n'est pas au fait imposé, parce que là, c'est purement sélectif, vous l'avez dit. Merci beaucoup d'avoir appelé Franck de Vienne en Autriche. Maître Patrick Hachema, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour, l'unité de la radio Capitale.
Vous avez la parole, Maître Papy. Vous avez suivi Franck, qui a parlé des critères objectifs, notamment en ce qui concerne la majoration des frais des dépôts des candidatures. Pour lui, il trouve que ce n'est pas un objectif, qui n'est pas un critère objectif. Mais quant au droit des votes, il souligne qu'il s'agit bel et bien d'une innovation apportée. Quel est votre point de vue?
Merci une fois de plus, M. Gilles, pour la parole que vous m'accordez. Et par rapport d'abord à la première condition, c'est-à-dire la détention obligatoire des titres académiques. C'est vrai que c'est un critère qu'on ne peut pas rejeter, soit qu'on ne peut pas mettre en cause. mais il faut voir comment les universités et les institutions supérieures travaillent ou fonctionnent dans notre pays. C'est vrai, vous pouvez voir ces titres-là. Est-ce que l'octroi de ces titres est normalement est vraiment fait conformément à la loi? Parce que nous voyons les gens qui se proclament licenciés, docteurs, mais pour qui on n'a vraiment pas la certitude par rapport à son exercice normal. Il serait mieux de mettre une sous-condition par rapport à cette grande condition-là, de vérifier vraiment l'exercice normal du candidat, bien que possédant ou détenteur d'un diplôme ou d'un titre académique. Alors, par rapport à la deuxième
innovation, voilà. Troisième innovation.
L'innovation des étrangers, des Congolais, oui, de l'étranger. Ça, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir, M. J.R., premièrement, qu'est-ce qu'un Congolais, qu'est-ce qu'un étranger, qu'est-ce qu'un Congolais qui habite à l'étranger? Est-ce que, comme l'a dit mon prédécesseur, est-ce que toutes les conditions administratives sont-elles réunies pour vraiment mettre ces critères en vigueur dans notre pays? Nous risquerons d'avoir les candidatures, voire même les électeurs qui ne sont pas Congolais, parce que vous savez comme nous comment notre politique étrangère, soit notre diplomatie, fonctionne. Moi, je souhaiterais qu'on puisse vraiment revoir ces critères-là, parce qu'on risquera d'aboutir à un désordre total. Alors,
oui,
par rapport au troisième critère, c'est-à-dire...
La troisième innovation, là, on parlait de la majoration de frais de dépôt des candidatures, pour lutter contre la multiplicité des candidatures.
C'est là où le bas aussi va blesser M. J.R. Et puis, là, moi, j'ai suivi les députés lors des débats et les sénateurs, ils motivaient leurs décisions pour éviter que l'on ait les candidatures fantaisistes.
Mm-hmm.
Mais ça, ce n'est pas vraiment une condition sine qua non, soit un garde-fou sine qua non. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si vraiment ces critères-là seront mis en vigueur, bien que la loi a été adoptée, mais je vous dirais que elle n'est pas encore mise en vigueur, il faut qu'elle soit promulguée par le chef de l'État, et celui-ci, en tant qu'agent du garde de la nation, a le pouvoir de renvoyer la loi au niveau du Parlement pour des petits amendements. Par rapport à cette condition-là, à cette innovation-là, M. J.R., on risque de donner le pouvoir seulement aux gens qui sont dans le pouvoir. Vous ne voyez pas cela, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le pouvoir, tout le monde sait, tout le monde décrit le détournement des deniers publics, la corruption. Et les mêmes gens ont maintenu ces critères-là pour qu'ils puissent toujours continuer à gérer la chose publique. Moi, je soutiens vraiment pas cette condition-là, parce que même si on dit que tel montant doit être donné par tel candidat par rapport à la hiérarchie de ces candidatures, mais si les gens ont toujours besoin de faire cela, ils vont déposer la candidature, il faut même apprêter de l'argent
pour
déposer la
candidature. Merci beaucoup pour vous.
À ce moment-là, ils viendront avec un seul objectif de piller l'État congolais afin de résoudre les problèmes qui sont ici.
Voilà, pour vous, vous rejoignez Franck également. Papi Kachema, vous raisonnez Franck en disant que ne s'agit pas là d'un critère objectif. Maître Joël, vous êtes à Kinshasa, bonjour maître.
Oui,
maître Joël, vous êtes avec nous en direct.
Oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole.
Je peux parler.
Allez-y, maître Joël.
Oui, oui. J'ai entendu, vous avez évoqué quelques innovations, mais il y a une grande innovation que vous n'avez pas parlé.
Voilà, maître Joël.
Oui.
Allez-y.
Oui, oui, la grande, disons, l'esprit du texte est resté le même. Vous savez que ce sont les élections que nous devons faire là en 2015 ici, qui nécessitent, qui est sous l'ancien régime de l'enrôlement. Mais les élections à venir, c'est-à-dire celles de 2016, c'est l'identification qui a remplacé l'enrôlement. Vraiment, ça, il faut aussi que la population puisse savoir. En 2016, il n'y aura plus. Pour les électeurs de 2016, c'est juste la carte d'identité. Et puis, par rapport aux Congolais de l'étranger,
voilà,
la plupart des Congolais qui sont aujourd'hui à l'étranger, ce sont ce qu'on appelle des sans-papiers. Ceux-là ne vont pas, ils doivent savoir qu'ils ne vont pas voter. Ce sont ceux qui sont en ordre, en quelque sorte, qui ont gardé la nationalité congolaise, qui vont participer aux élections de 2016, moyennant la carte d'identité. Et puis, par rapport au niveau d'études, JR, il faut retenir que le seul critère d'être un licencié ou gradué ne suffit pas. Vous connaissez dans quelles conditions nous obtenons nos diplômes. Moi, je pense qu'il fallait même ajouter les tests. Au-delà des diplômes, qu'on ajoute les tests. Donc, vous venez avec votre diplôme, qu'on évalue ces diplômes-là par rapport à vos connaissances. Vous verrez que non, on pouvait pallier à cette carence-là d'envoyer les gens qui ne maîtrisent, qui n'ont pas de connaissances au niveau de nos assemblées locales, provinciales aussi, parce que de 2016, il faut toujours patienter si ça aura lieu, étant donné que l'identification, on ne sait pas la date que ça va prendre. Mais par rapport à l'argent aussi, il faut savoir que les Congolais qui ont l'argent, ce sont soi-disant ceux qui n'ont pas de connaissances. Hein, c'est ceux qui n'ont pas de connaissances. Ils pouvaient user de leurs moyens pour toujours entrer là-bas. Ce ne serait pas vraiment une bonne chose. Mais moi, je pense que la population doit avoir en tête que le régime de l'enrôlement par rapport à la loi qui est votée actuellement ne serait plus en vigueur en deux, mais après les élections, les arriérés que nous allons passer jusque-là. Il faut aussi faire un effort pour que l'ONIP puisse être prêt avec les données démocratiques. Parce qu'en soi,
Maître Joël, le temps que vous avez été accordé, Maître Joël, nous resterons quand il concerne les débats autour de l'enrôlement, l'identification, nous projetons les faire dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous parlons des trois innovations apportées également dans cette loi, à savoir le niveau ou les conditions d'études et puis l'augmentation des frais de dépôt des candidatures et également les droits de vote des Congolais vivant à l'étranger. Arsène, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le JR.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci. Je voulais d'abord commencer par une innovation qui est un peu regrettable. C'est qu'on est marché sur le cadavre de Lumumba et on a fait cette loi sous le sang du peuple congolais. Ça, c'est regrettable.
Voilà. Arsène, Arsène, s'il vous plaît. Je crois que l'article 8 a été largement fait l'objet du débat au niveau du Parlement. C'est déjà clos et n'allons pas revenir sur cette question. Peut-être voir un peu comment l'actualité va évoluer. Mais aujourd'hui, nous avons tenu à faire les débats autour des innovations. Donc, restons dans ces innovations apportées par cette loi. Il y en a plusieurs. Nous avons ressorti ne serait-ce que nos trois. Pour vous permettre à ce que on puisse nous aussi à notre manière, dans le cadre de ces débats citoyens, de pouvoir scruter ces innovations, pour que au niveau des politiques, qu'on ait quand même une idée sur ce que nous pensons, nous, la population. Arsène, vous êtes avec nous, donc à Kikuit, parlons maintenant de ces trois innovations. La majoration des prêts de dépôt des candidatures, les droits de vote des Congolais à l'étranger, et puis la détention obligatoire d'un diplôme supérieur universitaire.
Ok, merci beaucoup. Pour le niveau d'études, je voulais commencer par poser une question. À part le niveau d'études, on a mis notre condition ou une expérience de 5 ans, je crois.
Mm-hmm.
Et où on vient et.
Voilà, vous parlez de. Oui, c'est un ou. Donc, vous avez. C'est l'un ou l'autre.
Allô?
Voilà, Arsène, vous nous suivez?
Oui, je vous suis.
Voilà, vous parlez de. Donc, ou soit vous avez le diplôme. Ou bien vous avez l'expérience professionnelle.
Ah, ok, je voulais faire cette différence-là. Parce que le niveau d'études, d'accord, mais il y a aussi l'expérience. L'expérience que l'on peut avoir dans sa vie professionnelle qui peut lui donner une certaine sagesse, qui lui peut se lever au niveau du Parlement et dire quelque chose, faire des débats objectifs plutôt, qui peut amener quelque chose sur la nation. Pour les étrangers, je crois qu'il y a un quoi que quelque part. Pour les étrangers, il faut nécessairement identifier qui est congolais à l'étranger, qui ne l'est pas. Cette chose-là, ce n'est pas encore fait. Il faut le faire. Je crois que l'ONIP et la CENI peuvent ensemble faire cette histoire-là. Pour le montant, on peut-être qu'on va éliminer des candidatures fantaisistes. Mais là, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Pourquoi éliminer les candidatures fantaisistes, selon eux, parce que c'est une expression congolaise, il faut l'accepter comme une expression, parce que un monsieur qui se sent, même s'il ne va pas battre campagne, mais qui se sent capable de postuler, il postule, c'est une expression, il peut garder ça pour son histoire. Il dit, j'ai été quand même candidat.
Mmh.
Et de deux, le nombre de députés. Le nombre de députés dépend du nombre de Congolais. Maintenant, il y a tout un travail à faire sur l'ONIF qui n'a pas assez de temps, mais qui aura peut-être les moyens, selon le président de l'ONIF, qui a peut-être les moyens, il saura tout faire. La troisième innovation qui parle de quoi encore ?
Des droits de vote des Congolais à l'étranger, nous avons parlé de la majoration des frais de dépôt des candidatures et aussi les niveaux d'études. Ou les
clients professionnels.
Vous avez utilisé tout. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, nous devons aller vers l'avant, voir un autre objectif et cesser la guerre ou peut-être les contradictions qui se trouvent.
Voilà, merci beaucoup. Comme tous les autres. Voilà, tous les autres ont évoqué des critères objectifs. Ça pourrait amener, en tout cas, l'application de cette loi sans controverse. Merci beaucoup, Arsène. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons en ligne Dieudonné Kichi, analyste politique, et vous êtes également écrivain, vous êtes en train de préparer un ouvrage en rapport avec la Constitution. Dieudonné, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Alors nous avons suivi les uns les autres pour que c'est certain, ce critère relatif au niveau d'études ou aux conditions pour être candidat semble être un critère pas très objectif.
Bon, moi je crois que la première chose qu'il faut noter lorsqu'on analyse, avant d'en arriver aux innovations là, c'est que depuis un temps, après Sam City, le Congo est en train de faire un effort pour sa refondation politique, toute la refondation de l'État congolais comme tel. Il y a beaucoup de réformes que nous voyons dans le secteur économique, dans le secteur social, et même dans le secteur judiciaire, dans le secteur de l'armée et des services de sécurité. Il y a tout plein de réformes qui sont en train de se faire aujourd'hui à travers notre pays, au sein de notre pays, et que nous applaudissons. Et nous devons aujourd'hui aussi, comme Congolais, accepter que désormais qu'on apporte des réformes dans les secteurs de la politique également. Parce que lorsque vous analysez les trois innovations que nous passons sous le pain au sein de cette émission aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que il y a des mots qui sautent. Il y a des aspects, des choses qu'il faut vraiment regarder en face. C'est d'abord le culte de l'excellence. On revient au culte de l'intelligence. Quand on met les diplômes, évidemment, on va dire la qualité des diplômes, la quantité des diplômes. C'est des choses sur lesquelles on peut revenir. Il y a un auditeur qui a parlé de la qualité des diplômes. Mais l'idée basique, l'idée générique, l'idée générale, à travers ces concepts, c'est de revenir quand même à un culte de l'excellence, à un culte de l'intelligence. Vous savez que la politique dans notre pays, telle qu'on l'a faite jusque-là, on a banalisé l'intelligence dans ces pays. Et donc, la politique partout au monde n'a jamais été l'affaire de tout le monde. La politique à travers le monde a toujours été une affaire de l'élite. Ça, ce sont des choses basiques que tous les Congolais doivent savoir, doivent comprendre et doivent accepter. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui va à l'université dans un pays. Regardez en France, ce n'est pas tout le monde qui entre au gouvernement comme tel. Quand vous regardez, c'est l'École nationale de l'administration, l'ENA. C'est la grande machine. C'est ce qui donne la plupart des politiciens que nous connaissons en France. Donc, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se faire, nous devons accepter ça d'abord comme réforme dans le secteur de la politique, comprendre des deux que la politique partout au monde a toujours été l'affaire de l'élite, et de trois, comprendre que nous sommes en train d'assister de chercher à faire, à intégrer dans notre politique la culture, les cultes de l'intelligence, les cultes de l'excellence, les cultes de la valeur qui a manqué jusque-là.
Alors, là, vous avez parlé de la qualité de l'enseignement et les critères relatifs au niveau d'études. Alors, parlons maintenant de la majoration des frais de dépôt des candidatures. En tout cas, pour certains auditeurs, ce n'est pas un critère, non plus un critère objectif.
Non, d'abord, quand vous lisez la loi, le projet qui va certainement devenir une loi bientôt, vous allez vous rendre compte, on parle de 500 000 francs congolais pour tous les candidats qui sont sur une liste. Vous voyez, si la liste est composée de 500 personnes, en réalité, ce n'est pas 500 000 par personne, si j'ai bien compris le projet de loi, vous allez voir que c'est pour la liste, ce n'est pas pour un individu. Ça, c'est de 1. De 2. Vous verrez aussi que si quelqu'un est véritablement un leader et qu'il aspire à devenir candidat, il veut devenir candidat pour une élection quelconque, ça signifie qu'il a la population avec lui, une population qui veut le porter à un poste de député par exemple. Donc du coup, cette population peut contribuer, peut cotiser pour son candidat, pour atteindre les montants qu'il faut et verser cet argent à la DGRAD et obtenir son titus pour être candidat. Donc, et ça également, c'est, nous n'incitons pas au Congo, vous voyez même Barack Obama, pour lui, Joseph Kabila, les gens ont cotisé pour lui pour constituer 50 000 dollars dans ce pays, et ça a été payé à la BCDC, les gens ont vu, et il a été candidat. La chose qu'on veut désormais faire au Congo, que nous devons accepter en tant que tel, si nous portons un candidat, nous refusons, nous mettons 500 000 francs congolais pour lui, et demain, nous pouvons le mettre à la candidature.
Voilà, parce que vous avez évoqué l'article 114, pardon 104, qui parle de conditions de frais à payer lors de candidature au niveau de la présidentielle. Il faut 100 millions de francs congolais en ce qui concerne le candidat aux élections des députés nationaux, c'est 500 000 francs. Et là, vous venez de le dire, c'est sur base d'une liste que présente le parti politique. Donc, on peut dire l'avantage serait pour les candidats d'être sur une liste de parti politique et non d'être indépendant.
Oui, d'abord parce que déjà quand vous regardez même la loi ici qui est en train d'être réformée aujourd'hui, on est candidat indépendant. Donc, la candidature.
Voilà,
quand on est candidat indépendant, j'insiste sur le fait que si on est candidat indépendant, si déjà on a l'intention d'être candidat, c'est qu'on comprend qu'on est leader, vous êtes un leader. Si vous êtes un leader, c'est que vous avez des gens derrière vous qui supportent votre candidature. Ça signifie que c'est des gens qui sont prêts également à cotiser pour vous. Alors, vous donnez de l'argent qui vous permet de déposer votre candidature et qui leur permet à eux de vous voter et de vous voir monter là où vous voulez passer.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Dieudonné. Je crois que on pourrait retrouver notre invité, mais il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs et surtout à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous parlons aujourd'hui des trois innovations apportées par la loi électorale telle que modifiée. Nous parlons donc de conditions d'études et aussi les prêts de dépôt des candidatures qui sont majorés et au-delà de cela aussi les droits des votes des Congolais vivants à l'étranger. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Ernest qui est à Matadi et maître son ville à Lubumbashi. Ernest, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, vous avez la parole, Ernest.
Bonjour, auditeur de Radio Capi, et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Voilà, Voilà, on me dit c'est Maître Sonville qui parle. Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur Gilles.
Voilà, allez-y.
Alors, je disais que oui. Par rapport aux innovations
qui
revenaient de l'Assemblée de voter, j'estime qu'il y a une part de choses qu'on peut relever. C'est-à-dire que par rapport d'abord à la majoration des prêts pour le dépôt des listes de candidature, j'estime que c'est une politique à deux fois de mesure. Ce ne sont que les parlementaires qui ont la facilité d'attraper 15 000 dollars, 13 000 dollars par mois. Et ils ont la facilité de faire même les économies pour répondre à cette innovation-là. Je ne sais pas s'il y a un fonctionnaire qui touche au-delà des 100 dollars dans ce pays pour faire les économies et atteindre ce montant-là. Puisque ça, j'estime qu'on commence à faire une certaine discrimination au sein de la population. Tout le monde est appelé à servir l'État congolais, quels que soient les moyens qu'il a. J'estime qu'un professeur, un enseignant au village, qui touche peut-être 50 000 francs congolais, 60 000 francs, peut-être pour qui on paye en valeur, par exemple, de maïs et
oui, Ernest, juste une curiosité. Est-ce que vous ne pensez pas que cette disposition vient renforcer, en tout cas, la crédibilité de certains partis politiques? Donc, on peut dire, c'est une façon de responsabiliser davantage les partis politiques, parce que les candidats qui seront sur la liste, et je crois qu'ils seront à charge des partis politiques.
Moi, je ne crois pas, monsieur J.R. Moi, j'estime que, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, nous avons vécu les élections de 2011. Il y a un parti qui a créé des partis satellites et qui a mis des moyens aux responsables de cette soi-disant parti satellite. Si vous dites que le parti politique doit prendre en charge les candidats, il y a une loi qui n'a jamais été mise en application, la prise en charge des partis politiques par le gouvernement congolais. Et avec quel moyen que ces partis peuvent prendre en charge leurs candidats? C'est là où se pose le problème.
Tout à fait. Donc pour vous, il fallait d'abord commencer par appliquer cette loi relative au financement des partis politiques. Ça pourrait résoudre ce problème, parce que là, c'est une tentative d'afficher.
Ça pourrait résoudre ce problème-là, puisque tous les Congolais n'ont pas assez de moyens. J'estime que les membres qui sont au gouvernement, ce sont eux qui amassent l'argent, ce sont eux qui font la loi. Même si vous voyez des véhicules, des bâtiments qui sont en train de monter comme des champignons à travers la ville de Congo, ce sont les gens du pouvoir. Mais nous, les petits des citoyens, où est-ce que nous allons trouver cet argent? Aussi longtemps que nous voulons aussi donner notre apport à cette République qui a tant souffert. Et je trouve que, à travers votre émission,
Je comprends bien qu'il faut activer les choses du côté de l'application de la loi relative au financement des partis politiques. Mais qu'en est-il alors du droit de vote de Congolais vivant à l'étranger, Ernest?
J'estime que c'est un droit qui est reconnu à tout Congolais, malgré où il est installé. Mais ce droit a été bafoué, puisque aux élections de 2011, l'opposition avait demandé que la diaspora puisse être prise en considération. Puisqu'on avait besoin aussi de leur confiance. Ce sont des gens qui contribuent beaucoup dans l'économie congolaise. Puisque M. Gilles se disait que, pour l'instant, beaucoup de Congolais vivent de l'argent qui vient de l'extérieur. C'est la diaspora qui contribue beaucoup. Puisque le gouvernement n'est pas en mesure de donner de l'emploi à n'importe qui. Mais maintenant, il faudrait mettre qu'il n'y ait pas de tricherie. Puisqu'au risque de gonfler,
Maître Sonville, est-ce que vous pensez, comme d'autres observateurs qui estiment qu'aujourd'hui, ce droit de vote des Congolais à l'étranger, c'est quand même une bonne aubaine pour les électeurs congolais, parce que cette catégorie constitue quand même des grands électeurs. Parce qu'ils influencent quand même.
C'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas de tricherie? Il n'y aura pas un surplus de nombre qui concerne effectivement les Congolais qui restent à l'extérieur. Parce que pour le moment, chacun cherche à conserver le pouvoir. Ce n'est pas le problème.
Voilà, donc.
Le travail sera bien fait au niveau de l'étranger pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas.
Voilà, donc
pour
vous demandez.
Congolais, là,
vous rejoignez
maître. De ce droit-là.
Voilà, maître Sauvide, donc vous rejoignez Franck qui parlait tout à l'heure des dispositions diplomatiques, pratiques et aussi administratives à la matière pour permettre à ceux qui n'y aient pas à des tricheries ou encore des irrégularités qu'on pourrait décrier. Merci beaucoup, maître Sauvide. Mais alors, est-ce que vous avez encore un autre commentaire par rapport à la majoration des prêts?
Oui, par rapport à la majoration
des prêts. Je voulais pas
tout congolais n'est pas mesure.
Mais par rapport au diplôme. Je voulais plutôt parler des diplômes.
Oui, par rapport au diplôme, je trouve que c'est un peu mitigé. Puisque un monsieur, il doit représenter la population.
au niveau de l'Assemblée doit savoir parler, doit savoir écrire et doit savoir réfléchir pour que des parties d'intervention, les intérêts de la communauté qui présente là-bas soient pris en considération. Vous comprenez un peu?
Mm-hmm.
Or, si on n'est pas, on n'a pas un coefficient intellectuel, je pose une question, comment ce monsieur-là va défendre valablement sa communauté qui représente là-bas?
Merci.
Et la manière de réfléchir. Parce que nous avons vu, par exemple, je te dis d'abord cette opportunité pour jeter un peu, pour féliciter l'Assemblée et le Parlement du fait d'avoir rejeté la linéa pour la linéa.
Voilà, qui n'est plus d'actualité.
Les gens qui ont réfléchi, les gens qui ont pris l'intérêt, l'intérêt communautaire en considération. Ils ne se sont pas contentés de leur intérêt égoïste. Et il faut avoir de la matière grise.
Au niveau du Parlement. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Ernest. Est-ce que vous pensez, comme Maître Sonville, qu'aujourd'hui, le fait que cette loi relative au financement des partis politiques n'ait pas encore été d'application, cela constituera donc un défi à relever dans la mesure où la population n'a pas assez de moyens pour être candidat et payer facilement 500 000 francs congolais. Il était question que les partis politiques soient très bien financés, comme les candidats seront sur la liste, et je crois que ça pourrait résoudre le problème.
Oui, il fallait commencer par financer les partis politiques d'une façon organisée telle que la loi le dit clairement, mais cela n'a pas été fait. Et lorsqu'un collaborateur parle candidat indépendant très populaire, qui doit avoir les moyens pour que ses électeurs puissent cotiser, c'est très fort. Ces gens qui vont cotiser dans des partis politiques déjà structurés, les membres ne cotisent pas. Combien de partis politiques bénéficient des apports de leurs membres? C'est zéro. C'est pourquoi.
Oui, Ernest, nous avons vu, c'est possible, en 2011, un grand parti de l'opposition a été, en tout cas pour son candidat, financé par le peuple, par les membres du parti, et qui ont payé, et qui ont signé aussi des contrats avec d'autres partenaires extérieurs, qui ont mis à la disposition de logistique pour battre les campagnes. Donc on peut dire dans la participation...
Vous prenez au Congo où nous avons plus de 500 partis politiques et on n'a qu'un parti où les membres ont compris, ce n'est pas le cas parce qu'on n'aura pas un candidat comme candidat à l'Assemblée provinciale ou nationale. Il y aura plusieurs candidats.
Tout à fait.
Donc, il y aura des candidats qui seront en difficulté. Mais pourquoi? Moi, en 2007, j'étais candidat vice-gouverneur. Si on parle des lois sur les études faites, c'est une bonne chose. Mais à ce temps-là, on avait dit qu'il y avait. Et si tu fais des mentions non obligatoires dans les affiches qu'on a prises à la CENI. Mais qu'est-ce qu'il faut que les députés nous disent? Combien ils ont fait des statistiques? Combien de députés, combien de sénateurs étaient élus pour les gouverneurs qui ne savent ni dire ni écrire, qui sont des illettrés pour que cette loi puisse être justifiée pour écarter les gens? C'est bien, c'est l'intellectualisme.
Voilà, je ne pense pas, Ernest. Oui, Ernest. Je vous arrête tout de suite parce que c'est vrai, nous suivons de près l'histoire quand même du pays depuis 2006 jusqu'en 2011. On sait comment cela fonctionne. Je ne sais pas, à moins que vous ayez des preuves et qu'il y a eu effectivement des gouverneurs ou des vice-gouverneurs qui ne savaient ni lire ni écrire.
C'est la question. Qu'on nous dise, parce qu'on avait, la fois qu'on avait dit, est-il fait des mentions non obligatoires? Or, cela n'a pas été le cas. Parce que nous, on dit, même pour être candidat gouverneur, il fallait l'âge de 18 ans. Quel est cet élève de 17 enfants, 18 ans, qui ont 18 ans, qui pouvait briquer les mandats du gouverneur avec les moyens? Donc, cela a été sur mesure. C'est pourquoi moi j'ai dit que la loi telle qu'elle est proposée aujourd'hui, on a encore écarté un grand nombre de Congolais. Oui, parce que lorsqu'on prend on parle de qualité, lorsqu'on parle des études faites ou de l'élite, c'est bien qu'on propose les études faites. Parce qu'on voit qu'il fallait maintenant revoir la qualité de l'enseignement qu'on donne aux Congolais pour créer réellement cette élite. Ça, c'est très bien. Mais lorsqu'on vient sur les frais, on a créé la fois passée dans le gouvernement pour créer une classe moyenne. À quel niveau nous sommes arrivés pour créer la classe moyenne? Parce qu'il ne faut pas que les listes qui se concentrent de Kinshasa, qui viendront même se postuler comme députés au village, je ne sais pas moi, comme chef de collectivité. Il faut à chaque niveau qu'il y ait ces élites qui savent défendre les populations. Mais ce qui cache l'arbre qui cache la forêt, c'est quoi? Au niveau de l'Assemblée, comme on travaille en commission, ces gens sont masqués dans les commissions. Et c'est les porte-parole qui se lire et qui va défendre les dossiers. Voilà le grand problème que nous avons.
Merci beaucoup.
Quant à l'élection des Congolais de l'étranger, les mécanismes. À la fois, on a prévu une élection électronique, ce n'est pas en 2016 que ça sera appliqué. Il faut aussi là-bas, si déjà au niveau interne, il y a difficulté de recenser réellement le nombre de populations pour savoir le nombre d'intérêts.
Et à l'extérieur, donc, il faudra le même problème.
C'est ça les graves inquiétudes que nous avons.
Merci beaucoup, Ernest, d'avoir appelé des matadis, beaucoup d'appréhension et aussi d'inquiétude par rapport à ces innovations apportées par la loi. Merci beaucoup à vous qui avez également salué certaines innovations et vous avez apporté quand même quelques contributions à la matière. Merci beaucoup, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, nous revenons à vous, Dieudonné Kishi. Vous êtes notre invité tout à l'heure, il y a interruption. Hein. Vous avez perdu en ligne. Vous êtes en ligne à nouveau.
Je suis en ligne.
Voilà, vous venez de suivre les uns et les autres, mais avant que nous puissions vous perdre en ligne, on vous posait juste la question sur la majoration de frais, qui ne constitue pas un critère objectif selon certains auditeurs, mais il y a d'autres qui ont suivi après, ont insisté sur la loi relative au financement des partis politiques qui n'est toujours pas d'application. Alors, cela constituera quand même une difficulté pour les candidats qui seront sur la liste des partis politiques.
Bon, moi je crois que nous devons d'abord comprendre de quoi nous parlons. Comprenez, si on parle d'un parti politique, c'est-à-dire c'est une organisation sociale qui a la mission, qui a une ambition de pouvoir prendre le pouvoir, de l'exercer, de le conserver le plus longtemps possible. Donc voilà cette organisation-là, ça ne doit pas être un truc, ça ne doit pas être n'importe quoi, ça suppose que c'est vraiment une organisation qui a des membres qui cotisent, qui disent parti politique, veut dire une organisation, et une organisation ça signifie des gens qui sont là entre eux et qui se sont fixés des objectifs, qui se donnent des moyens de leurs objectifs pour atteindre le plus grand objectif qui est celui de prendre le pouvoir, de l'exercer et de les conserver le plus longtemps possible. Et donc, si, par rapport à cet entendement, qui est d'ailleurs un entendement scientifique, si donc on ne peut pas qualifier une organisation dans ses critères de partis politiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti politique. Et donc, si on n'a pas de parti politique, on ne parle pas de parti politique. Comprenez. Donc, on y va là déjà. En fait, c'est pourquoi je suis...
Dédonné, est-ce que vous ne pensez pas que l'application de cette loi, ça aurait été une partie de solution, par exemple, qui se pose sur cette question de la majoration des frais?
S'il vous plaît, je ne veux pas bien suivre.
J'ai dit, ne pensez-vous pas que, en fait, l'application de la loi relative au financement des partis politiques aurait été une partie de solution au problème qui se pose sur cette disposition relative à la majoration des frais de dépôt des candidatures?
Oui, il y a deux aspects sur le financement des partis. Le financement des partis politiques ne fonctionne pas seulement avec le financement du gouvernement. Avant le financement du gouvernement, il y a les
cotisations. Les cotisations des membres.
Nous devons dans ce pays apprendre à disposer des partis qui ont des membres, parce qu'on nous montre les membres tous les jours dans les mobilisations, vous voyez des drapeaux partout. Donc, d'où viennent ces gens s'ils ne cotisent pas? Comment quelqu'un va faire la politique, va voir un parti politique avec autant de gens qu'on nous montre à la télévision, sans être sûr que ces gens-là cotisent pour le fonctionnement de ces partis? Donc, le financement des partis vient de deux sources. Il y a les cotisations des membres, ça signifie déjà que si les membres cotisent, ils vont avoir de l'argent pour présenter leur liste. Et encore que ces 500 000...
Alors, Dieudonné, c'est vrai que nous évoluons actuellement dans un contexte politique un peu exceptionnel. Nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des mandataires de l'État, c'est vrai, sont issus des partis politiques. Aujourd'hui, qui constituent parfois, en tout cas pour certains observateurs, se cassent des résonances pour leurs partis politiques parce qu'ils doivent normalement contribuer, et en tout cas pas d'une façon moins significative au niveau du parti. Ils ont la gestion de la chose publique, ils contribuent à leur parti. Donc c'est comme pour dire, à un certain moment, c'est seulement ces partis-là qui auront des moyens. Ça, c'est la crainte. C'est ce que redoutent certains observateurs.
On ne peut pas scientifiquement tabler sur ce genre de choses parce que ce n'est pas légal. Si la personne, les mandataires publics cotisent à travers ses rémunérations, ils ont de l'argent, ils payent ses cotisations aux partis politiques, c'est normal.
Tout à fait.
Mais si les mêmes mandataires fonctionnent sur les caisses de l'État pour financer un parti, son parti politique, ce n'est pas normal. Donc on ne peut même pas scientifiquement parlant, on ne peut même pas tabler sur ces cas-là. Moi, je voudrais vraiment que nous comprenions qu'un parti politique, déjà quand on prévoit même qu'il soit financé, ça signifie qu'un parti, ce n'est pas n'importe quoi. Et à travers le parti, a également la mission, c'est la pépinière, c'est elle qui donne des candidats.
Tout à fait.
Donc, vous voyez, c'est une organisation suffisamment sérieuse qui doit se prendre elle-même au sérieux, c'est-à-dire disposer des membres à même de cotiser, exiger des cotisations de ses membres pour que, en retour, les partis soient capables de payer, par exemple, comme on dit ici, de payer les frais qui sont exigés pour déposer les listes.
Alors,
je ne comprends pas comment les gens peuvent se passer par rapport à ça. Donc, c'est normal. Ou alors, on comprendra que nous avons dans ce pays des gens qui se disent appartenir à un parti politique, mais qui ne veulent pas financer leur parti. Et donc là, on ne comprendra plus rien.
Alors, revenons un peu sur cette disposition relative au droit de vote des Congolais à l'étranger. D'aucuns émettent aussi quelques inquiétudes ou redoutent que cela ne soit pas possible dans la mesure où, dès lors qu'on aura discuté pour, disons, organiser l'identification, l'enrôlement à temps échu des électeurs à l'interne, avec les mécanismes mis en place pour les faire à l'extérieur, ça posera énormément de problèmes. C'est pourquoi d'aucuns ont évoqué les problèmes des dispositions diplomatiques, des dispositions administratives et aussi techniques, qui ne sont pas, en tout cas, faisables par les temps qui courent. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, il faut d'abord saluer cette justice qui est faite à nos compatriotes qui sont à l'étranger, parce que la Constitution, elle, prévoyait déjà que tous les Congolais ont droit de voter et de se faire élire. Tous les Congolais sans distinction. Maintenant, c'est la loi ici qui est venue dire, bon, pour voter, il faut être au Congo. Maintenant qu'on corrige ça, nous saluons déjà. Et puis, c'est que moi, je souhaite que les compatriotes comprennent, c'est aussi que nous sommes dans un processus de refondation politique de notre pays. C'est un processus. Hier, les Congolais de l'étranger n'étaient pas en mesure de voter. Aujourd'hui, la décision vient d'être prise. Maintenant, il appartient à l'État congolais de voir comment il va le faire pour que, bon, même si dans la pratique, il ne vienne pas aux élections de 2016, en tout cas, il va y avoir élection en 2021, en 2026. Donc, on va se projeter. Au moins, ils sont déjà là, on commence le processus. Qu'on commence, si le processus ne fait pas qu'ils puissent voter en 2016, on se convient de comment on décide ensemble, mais au moins que le processus de leur rentrée dans le processus
électoral soit déjà effectif. Merci beaucoup, Dieudonné. On va vous garder. Voilà, on va vous garder encore, Dieudonné, qui est en ligne, le temps de prendre Antoine, qui est à Kisangani, Claude Agoma. Antoine, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour, monsieur.
Voilà.
Je suis très content de participer ce jour à cette émission. Sur les trois innovations, moi je ne les conclue que par du fair play. Fair play parce que si nous prenons par exemple le vote des Congolais de l'étranger, c'est par suite à des multiples réactions que ces confrères-là avaient manifestées après les élections bâclées de 2011. Alors pour essayer de les calmer et de faire que montrer que si on s'occupait d'eux, on a voté cet article-là. Mais concrètement, nous connaissons comment nos ambassades fonctionnent à l'étranger. Pratiquement, ce ne sera pas possible. C'est du fair play. Et s'il faut voir maintenant la disposition par rapport aux études faites, ça aurait été mieux si on se limitait seulement aux études et non pas ajouter l'expérience. Parce que l'expérience-là, ils font allusion à l'expérience parlementaire. Il y a des gens-là qui dorment au Parlement, qui applaudissent quand il ne le faut pas. Et qui ont déjà une expérience, parce qu'ils auront eu comme ça plus de 10 ans au Parlement. Alors, ils nous ont laissé ça ouvert pour qu'ils se reconduisent. Et enfin, il faut rentrer aussi à l'autre point, c'est quoi? C'est
la majoration du frais de dépôt.
Qu'on ne nous trompe pas, même si les partis politiques pouvaient contribuer Mais cela montre comment la rupture sociale entre les élus et leurs électeurs est consacrée par le Parlement même. Parce qu'après avoir déboursé de grosses sommes comme ça, même si l'argent provenait du parti politique, ces membres-là paieraient au service des partis politiques. À tout prix, devraient faire la première chose, c'est récupérer l'argent perdu. Et même si c'était pour un individu, il se comporterait plus en un administratif et non pas en un politicien. Contrat social rompu. Alors ça, il fallait seulement rejeter l'entièreté de la loi. Pas de bonnes innovations. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour vous, Antoine, en ce qui concerne la disposition relative à la majoration des frais de dépôt des candidatures. Vous trouvez que c'était vraiment inopportun. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir appelé de Kisangani. Claude, vous êtes à Goma. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est votre position par rapport à ces trois innovations?
Je voulais surtout intervenir sur le droit des Congolais de l'étranger. C'est vrai, ils doivent voter, c'est normal, mais ce n'est pas le moment, monsieur le journaliste. C'est le moment. Parce que moi, je suis à Goma. Je connais ce qui s'est passé lors des élections souvent. Qu'est-ce que nous constatons? C'est tous les Rwandais qui viennent voter à Goma. Or, la nationalité congolaise est inexclusive. Vous n'allez pas maintenant nous dire qu'on va installer un bureau au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, qui va voter là-bas. Nous ne savons pas ceci. Mais ça aura des conséquences terribles sur les résultats des élections. Nous allons nous retrouver avec des députés que nous ne connaissons même pas. Parce que là, faites attention, et je demande aux Congolais d'ouvrir l'œil et les bons. De ce côté-là, peut-être dans d'autres pays, ça va, mais sur les trois pays, j'ai mis sérieusement des doutes.
Merci beaucoup, Claude. Oui, allez-y, Claude.
Peut-être une opinion sur le problème des diplômes.
Oui,
ça ne sert à rien. Laissez les Congolais qui peuvent, qui ont besoin d'être des candidats, ils sont des candidats. Pourvu qu'ils puissent faire, parce que nous avons des licenciés aujourd'hui qui ne peuvent pas même rédiger une demande d'emploi. Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Je vous en prie, Claude, d'avoir appelé. Dieudonné Kishi, c'est vrai, il y a beaucoup d'appréhension et beaucoup d'inquiétude par rapport à toutes ces dispositions. Alors, quelle est votre réaction?
Moi, je crois que. Il faut vraiment que nous comprenions, nous comme Congolais, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons, qu'est-ce que nous voulons en fait. Voulons-nous d'un pays passoire, un pays où tout le monde peut venir faire de la politique, faire... Vous savez, la politique, c'est vraiment le secteur le plus sensible de la vie nationale. Parce que vous avez des gens qui viennent, qui s'installent, qui prennent des décisions sur les autres. C'est pourquoi, quand on met le système d'élection, on dit que la population s'est choisie, ses délégués, ses représentants, il faut mettre du soin dans ses choix, parce que demain, notre vie va en dépendre. Aujourd'hui, ce qui s'est fait, il faut le mettre sur le fond de la réforme politique dans notre pays. Et donc, si on dit que les Congolais de l'étranger vont désormais voter, qu'on s'asseye, qu'on regarde, oui, comment ils vont voter? C'est que notre l'intervenant de tout à l'heure qui a évoqué le cas de nos frontières avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Mais c'est des questions justement que nous devons, maintenant que la loi est là, il faut maintenant vite regarder ensemble avec le gouvernement national, avec le gouvernement provincial, qu'est-ce qui doit être fait pour ne pas connaître cette situation. Parce qu'en fait, il est strictement nécessaire que les Congolais qui sont à l'étranger se sentent concernés par ce qui se passe dans leur propre pays. Le fait d'être à l'étranger n'enlève en rien leur nationalité congolaise. Et donc, ils doivent participer. Déjà qu'ils participent à travers les envois de fonds, ou les liquidités, à travers d'autres choses qui sont dans leur pays. Donc, ce n'est pas la politique qui doit les exclure. On dit les niveaux de diplôme. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce pays, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est vraiment dévaloriser la culture de l'excellence, la culture de l'intelligence. L'intelligence doit être valorisée. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé de la qualité des titres académiques qu'on confère. Mais ça signifie que aujourd'hui, que cela relève de la loi pour participer. Demain, on regardera également la qualité. Il faut qu'on regarde également la qualité des titres.
Tout à fait. Voilà, Dieudonné, on va...
En expliquant tout ça, c'est pour dire que nous, c'est un processus de refondation qui devait nous amener à une certaine maturité demain dans le secteur politique de notre pays.
Voilà, Dieudonné Kishi, nous rappelons que vous êtes journaliste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Hein.
Merci, bonjour à tout le monde.
Voilà, nous revenons, Maurice, vous êtes le tout dernier auditeur qui va boucler cette émission. Maurice, vous avez une minute, Maurice. Vous êtes en ligne.
Je pense que nos compatriotes s'agitent pour rien, mon cher Jérôme Diombo. L'enjeu réel de cette modification n'était même pas ce critérium-là. Ce critérium-là, c'était à dessein. C'était juste pour démontrer aux gens de bien fonder de la modification qui devait s'opérer au prix du sang ici. Les problèmes, l'enjeu réel était de créer une base juridique sur laquelle devait se fonder les glissements, qui est inévitable. C'est
voilà, Maurice, restons dans ces innovations. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ces innovations? Je pense que nous avons dit...
Je pense que les collègues qui m'ont précédé...
Ils ont tout dit. Voilà, merci beaucoup. Nous vous remercions, Maurice, d'avoir apporté l'intérêt à ces débats et surtout à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, ici à Kinshasa, en tout cas dans les provinces, et pourquoi pas ceux qui sont à travers, à l'extérieur du pays, qui ont eu intérêt en tout cas à ces débats citoyens. Nous vous remercions et nous vous disons en tout cas... On va se retrouver demain pour un autre débat. Nous saluons d'ailleurs les collègues qui ont participé à la production de cette émission, Paul Badianiam, Piero Elameji et Julie Feza Bongona.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, Léopard ont accédé au quart de finale. Ils rencontreront donc les Congo Brazza. Un grand derby, nous en parlons demain. Quelles sont les chances à capitaliser pour que finalement les Léopards puissent continuer la course dans cette 30e édition de la CAN? Prenez rendez-vous avec nous donc demain et à très bientôt. Thank you.